Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus Floß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Onde Femme. Onde Femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis.
Bonjour et bienvenue dans Remue-ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Pendant tout l'été, nous vous proposons des rediffusions de nos émissions de l'année. Alors aujourd'hui, je vous propose de retrouver Béatrice Moral, qui est anthropologue à l'Université basque de Saint-Sébastien et qui, au mois de mai dernier, nous parlait de ses recherches effectuées en Micronésie dans l'état de Chuuk, dans le Pacifique. Alors, je ne sais pas si vous savez où se trouve Chuuk, je suppose que non, mais vous le découvrirez avec Béatrice, qui a montré une partie de ses résultats, de ses recherches, donc qu'elle a effectuées dans l'état de Chuuk pendant 2 ans. Elle l'a montré en mai dernier au Musée d'ethnographie de Genève. Cette exposition, elle l'avait conçue avec une de ses amies qui est peintre et qui avait réalisé toutes sortes de très jolis tableaux, avec entre autres imagés selon le style de l'état de Chuuk, avec toutes sortes d'animaux de la région. Et ces tableaux illustraient les informations qu'a recueilli Béatrice pendant ce long séjour de 2 ans dans l'état de Chuuk. Alors, si aujourd'hui, bien sûr, vous ne pouvez plus voir l'exposition, je ne pense pas que ce soit un problème, dans la mesure où Béatrice Moral nous parlera de la vie à Chuuk et du statut des femmes en particulier, de façon très très imagée, et l'absence de l'exposition ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors, dans quelques instants, nous retrouvons Béatrice Moral en mai dernier. Radio Zone, Remue-ménage, c'est 93.8.
Alors, bonjour Béatrice.
Bonjour.
Merci que tu sois venue pour nous dans cette émission, surtout qu'on s'est eu au téléphone vraiment à la dernière minute. Oui. Alors, merci infiniment de cette disponibilité. Alors, je crois que peut-être, comme on le disait, il y a bien des chances que personne ne sache où se trouve l'état de Chuuk, la Micronésie. Peut-être que, en tout cas, nos auditrices qui sont particulièrement sensibles au problème du nucléaire, on a parlé des atolls de Mururoa, etc. Ça, on se rapproche quand même de cette région, non, quand même,
oui.
Béatrice?
On s'est rapproché un peu. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent où se trouve la Micronésie. Même des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est.
Qui croient que c'est un médicament, ouais, comme ouais. Tu me disais.
Ouais.
Alors, comment, si on veut essayer de situer où est Chuuk, qu'est-ce qu'on peut donner comme référence géographique?
Bon, on peut donner, Philippines et puis la Nouvelle-Guinée, disons que ça se trouve entre les deux. Disons que les Philippines et la Nouvelle-Guinée, ça fait comme un angle, puis c'est un peu par là, à peu près. Mais bon, c'est vrai que c'est des milliers d'îles éparpillées dans une très grande superficie.
Oui, d'ailleurs, on trouve dans l'exposition des chiffres impressionnants de ce point de vue-là. On nous dit qu'il y a 12 millions de kilomètres carrés et seulement 3 000 kilomètres de terre, c'est des milliers d'îles et c'est 300 000 habitants.
Ouais, voilà,
un petit peu de géographie, juste.
Ouais.
Et puis, à quoi ça ressemble, Chuuk? Alors, quand on débarque, c'est un atoll, c'est-à-dire c'est les cocotiers, c'est la barrière de corail, c'est la mer bleue transparente.
Ouais. Bon, disons que l'état des Chuuk, c'est... Bon, il y a plusieurs groupes d'îles, disons. Là où j'étais, c'était là où se trouve la capitale. Et puis, c'est l'endroit qui a donné le nom à l'état de Chuuk, justement. Chuuk, ça veut dire montagne. Et puis, bon, disons, c'est une barrière du corail qui forme une espèce de lagune dans la mer. Et puis, dans cette lac, il y a une partie des îles de Chuuk qui sont, disons, à peu près montagneuses. C'est-à-dire que ce n'est pas un peu l'idée qu'on a des îles typiques coralliennes de
très basses,
très basses, avec des grandes plages et des choses comme ça. Il y a plutôt des montagnes avec une grande végétation. Il y a aussi des plages, bien sûr. Et puis après, il y a une autre partie de Chuuk qui c'est justement dehors de cette barrière. Puis là, il y a beaucoup de groupes d'atolls, justement, qui c'est des îles comme ça, plats, et avec des longues plages et des choses comme ça.
Mmh. Et alors, pourquoi, Béatrice, es-tu partie en tant qu'anthropologue faire une recherche à Tchouk? Alors, est-ce que c'est ton travail d'anthropologue depuis toujours t'avait intéressé? Je ne sais pas depuis combien de temps tu travailles comme anthropologue, mais est-ce que c'était une préoccupation depuis toujours?
Bon, disons que j'ai fini mes études et puis je voulais faire un terrain. Et voilà, il fallait décider où je voulais aller. Puis je voulais aller très loin. Puis effectivement, je crois qu'il n'y a pas plus loin que ça parce que c'est justement de l'autre côté du monde. Et bon, ce que ça m'intéressait à Tchouk, c'est que c'est une société matrilinéaire qu'il ne faut pas mélanger avec matriarcale, c'est-à-dire qu'on appartient à la famille de la mère, c'est tout. Ça ne veut pas dire que les femmes ont le pouvoir ou des choses comme ça. Ça, on fait assez souvent ce mélange. Mais bon, alors, disons que j'étais aussi attirée pour le Pacifique et puis pour les petites îles du Pacifique, un peu comme tout le monde. Ça a toujours fait partie d'un rêve. Et puis bon, voilà, j'avais des contacts parce que ma professeure aussi, elle avait été en Micronésie, mais dans un autre endroit. Puis bon, elle m'avait, disons, encouragée pour y aller. Et puis voilà.
Qu'est-ce qui t'avait encouragé à t'intéresser au rôle des femmes? Puisque si tu t'intéresses à une société matrilinéaire, c'est que tu avais un intérêt particulier d'étudier le poids de la culture dans le rôle des femmes et l'interaction qui peut exister par rapport à la société. Quel est du coup le rôle des femmes dans la société? Qu'est-ce qui t'avait amené à t'intéresser à cela en particulier?
Bon, disons que quand j'ai fait mes études en anthropologie, j'ai eu la chance justement de tomber dans une université où l'anthropologie des genres était assez importante, justement où on étudie les relations entre hommes et femmes. Et puis voilà, alors disons que dans mes études d'anthropologie, ça c'était un sujet assez important. Et voilà, c'est disons, bon, en tant que femme aussi, dans ma propre société, je vois aussi les problèmes et ça me préoccupe. Je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions et de paradoxes. Alors, je pensais que c'est un sujet passionnant. Et puis, bon, je pensais que c'est aussi intéressant, justement, d'aller ailleurs pour voir la différence et pour voir aussi comment les choses se construisent ailleurs en partant des paramètres différents, comme c'est par exemple une système de parentèle matrilinéaire.
C'était une de tes premières recherches?
Ouais, c'est ma première recherche.
C'est ta première recherche.
Ouais, disons que j'ai collaboré, mais vraiment la première recherche que moi j'ai faite, c'est la première. Ouais.
Alors, est-ce que tu partais avec une idée préconçue? Parce que tu dis, le rôle des femmes, ça m'intéressait, la Micronésie, le Pacifique, tout le monde en rêve plus ou moins d'une certaine façon, mais est-ce qu'il y avait comme ça quelque chose qui au départ a guidé ton projet?
Bon, disons que j'avais une hypothèse que c'était quand même construit depuis la société où j'habite, quoi. Puis c'était justement que la façon de comprendre ou de définir les femmes, c'était très influencé pour la façon dont on a de comprendre aussi la sexualité. Alors voilà, je voulais justement savoir si ailleurs c'était aussi comme ça. Alors je suis partie, disons, avec un projet, avec l'hypothèse justement de que pour comprendre la façon dont on fait les définitions des femmes, il faut d'abord comprendre comment on définit aussi la sexualité.
Alors le titre de l'exposition au musée d'ethnographie à Genève, c'est « Les mers du Sud ou l'envers du paradis ». Donc on peut tout de suite savoir par le titre que l'on va, par ton travail, chercher à démystifier une certaine image que l'on a de cette région. Est-ce que ceci était dans ta tête déjà à ton point de départ ou bien est-ce que tu t'en es rendu compte au cours de ta recherche?
Non, bon, je crois que j'avais aussi un peu cette idée. C'était aussi ça que je trouvais intéressant, justement, qu'une autre façon de comprendre la sexualité, dont je croyais qu'il était beaucoup plus, libérée. Je ne sais pas si c'est le même mot à utiliser, mais on disait que c'était moins restrictif que chez nous, que ça donnait aussi, disons, de façon de comprendre les choses différemment. Et mais voilà, mais ce n'était pas vrai. Bon, disons que ça se ressemble très peu un peu à l'idée qu'on s'est fait ici des mers du Sud et puis de ces belles femmes accueillantes et puis de cette sexualité libre de tabous et puis de contraintes et des choses comme ça, c'est absolument différent.
Pourtant, image qui continue à être alimentée par les voyageurs qui en reviennent ou les films qu'on a montrés. Est-ce qu'il y a moyen comme ça, globalement, de détourner à ce point-là la vie d'une société pour en donner une image si fausse que ça? C'est si simple que ça?
Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'images qui sont très difficiles à interpréter, justement parce qu'on arrive sur une plage et puis on voit une femme souriante qui monte ses seins. Et puis voilà, ça fait déjà une idée, justement,
Donc ces gens ne sont jamais allés au-delà de cette première image-là, c'est ça. C'est voilà. Pour ça que ces récits et cette idée nous arrivent. Quoi.
Voilà, c'est aussi qu'il y a des sons de façons différentes de s'habiller, des façons de politesse différentes, et puis des normes de pudeur aussi qui sont différentes, qui sont été mal interprétées, disons, puisqu'on n'a pas vu, disons, les mêmes normes de pudeur qu'on avait chez nous. On a pensé qu'il n'y en avait pas, mais c'est juste qu'elles sont différentes.
Et surtout très cachées, visiblement.
Oui.
Alors, nous allons revenir à tout ça dans quelques instants, bien plus en détail. Je pense que Béatrice aura beaucoup de choses à nous raconter très concrètement, puisque Béatrice, tu es restée 2 ans en Micronésie. C'était quand, ça?
Bon, je suis partie en 1992 jusqu'en 1994.
Un long séjour, c'est habituel, un si long séjour que ça pour un travail d'anthropologie, ou c'est toi qui t'es installée à Tchouk?
Bon, disons que c'est le temps idéal. Il faut justement avoir les possibilités de le faire. Justement, bon, j'avais pas un travail, disons, parce que normalement, quand on fait une recherche, il y a beaucoup de gens qui travaillent en même temps à l'Uni. Puis bon, c'est vrai qu'il faut toujours profiter des vacances, bon, peut-être une année sabbatique, mais pas deux. Alors bon, là, je n'avais pas de travail, et puis disons que je pouvais me permettre ça.
Ce n'est pas de la musique de Micronésie que vous allez entendre, mais c'est Meredith Mang, une voix de femme très spéciale. Les mers du Sud ou l'envers du paradis, en compagnie de Béatrice Morale, anthropologue, qui s'est intéressée à la place des femmes dans la société micronésienne de l'État de Tchouk, et en particulier au travers de des règles concernant la sexualité. C'est comme ça qu'on peut concentrer...
Oui, à peu près.
Comment tu dirais, toi?
Bon, je dirais que ce que je voulais trouver, c'est ce que j'appelle la conceptualisation de femmes à travers la sexualité, bon, à travers le corps aussi et la sexualité.
Alors, avant de te mettre à étudier, j'imagine que tu arrives, que tu t'installes et qu'il y a... Il faut... on est étrangère quand on arrive, il faut rencontrer les gens, acquérir leur confiance, trouver un moyen d'échanger avec eux. La langue est certainement un problème. Alors, comment ça s'est passé pour ce qui concerne ton travail?
Bon, disons que j'avais un contact là, qui c'était le jésuite. Et bon, disons que je débarquais à Tchouk, Et puis bon, je suis restée avec eux pendant un mois, jusqu'à que finalement, bon, j'ai commencé à connaître des gens de Tchouk. Puis voilà, finalement, je trouvais une famille, après à peu près un mois, je trouvais une famille qui voulait bien me loger. Bon, plutôt m'adopter, parce que là, on est adopté par les familles. Et puis bon, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait. Et puis, disons que j'étais chez eux, puis je leur payais une espèce de loyer, mais c'était un peu pour tout, parce que c'était pour la chambre, et puis pour me nourrir, et un peu tout. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait, disons, de départ.
Et tu, à cette famille, tu leur as expliqué ce que tu venais faire là, et comment ont-ils réagi à cette présence et cette envie pour toi de te pencher sur leur façon de vivre?
Ouais. Bon, ils savaient que, disons, que j'allais faire une recherche anthropologique, dont ils sont, disons, assez habitués, parce qu'il y a eu pas mal d'anthropologues qui sont allés à Tchouk. Alors, disons, bon, que si même eux-mêmes, ils n'avaient pas vécu avec des anthropologues, ils avaient déjà entendu parler. Mmh. Et puis bon, aussi, parce que, disons que en étant, disons, par moyen des jésuites, puis en étant celle-ci une famille catholique, disons que j'étais assez bien accueillie, disons que c'était, voilà, que ça leur donnait un peu de confiance, disons.
Tu parles des jésuites, donc ça veut dire que Tchouk a été colonisé par bon nombre de gens, entre autres par les catholiques et les jésuites, qui venaient de quel pays? L'Espagne est à coloniser Tchouk?
Bon, c'est un peu... Bon, disons que Tchouk a été une colonie d'abord des Espagnols, après des Allemands, après des Japonais et après des Américains.
Des Allemands? On ignore souvent que les Allemands étaient des colonisateurs.
Oui.
Tiens.
Mais bon, pendant très très peu de temps, jusqu'au début de siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis après, c'est les Japonais qui sont arrivés jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et puis après les Américains. Puis bon, bien sûr, avec l'Espagne, il y a toute la bande de catholiques qui sont arrivés. Mais en tout cas, les protestants, ils sont arrivés d'abord. Et c'était des protestants américains qui sont d'abord arrivés à Tchouk. Et puis juste un peu après, c'est les catholiques, les capuchines. Et puis, bon, après, à cause des problèmes entre l'Allemagne et le Japon, ils sont expulsés, tous les capuchines, et puis ils sont mis des jésuites. Mmh. Bon, ça demande l'histoire.
Mais donc, c'est une colonisation récente, malgré tout, alors?
Oui, 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 disons, parce que l'Espagne, moi, je ne me souviens jamais des dates, mais disons que ça faisait partie de l'Espagne, c'était une colonie de l'Espagne depuis très longtemps. Mais bon, ils n'avaient jamais mis les pieds là, parce qu'il n'y avait vraiment pas d'intérêt... aucun intérêt, ni économique, ni politique. Et voilà, alors après un moment, ils sont vendus à l'Allemagne. Parce que bon, c'était un moment où ils ne pouvaient plus, disons, entretenir des colonies parce que ça coûtait trop cher. Mm-hmm. Puis bon, disons que la présence espagnole, c'est presque rien, à part la présence religieuse. Ouais. Ouais.
Mais alors, cette colonisation qui, donc, aujourd'hui est américaine, est-ce qu'on la voit? Elle est très marquante. Est-ce qu'elle a déjà beaucoup bouleversé la vie des gens? Parce que les Japonais, donc, si tu dis Deuxième Guerre mondiale, ça veut donc dire la guerre du Pacifique. Mm-hmm. Je suppose que Tchouk devait être une base navale ou aérienne pour les Japonais, c'était... donc prise dans la guerre.
Oui, c'était une très, très importante base navale pour les Japonais. Puis, bon, en fait... une des plus importantes batailles navales dans le Pacifique, c'était livrée à Tchouk, justement.
Donc la population en plus subit les bombardements, etc., liés au conflit Japon-américain.
Que maintenant, ils sont un peu de profit, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont justement dans la mer. Et puis, alors, il y a beaucoup de gens qui vont faire de scuba diving et puis ça leur apporte de l'argent maintenant.
Mais alors, par rapport juste qu'on t'imagine arriver dans ces îles, c'est donc des gens qui ont déjà vu des Blancs et des étrangers depuis un certain temps. Et j'imagine que cette présence a déjà bouleversé leur façon de vivre traditionnelle. À quoi tu l'as remarqué quand tu es arrivée? Quelles ont été tes premières impressions? Est-ce que c'était justement les îles dont tu rêvais avant de partir?
Bon, disons que je suis arrivée, puis bon, je suis restée à la capitale. Disons que c'est l'endroit le plus bouleversé, justement, par rapport à ça. Alors, je ne me suis pas vraiment rendue compte jusqu'à quel point cette culture était bouleversée, jusqu'à que je ne suis pas allée aussi dans des autres îles qui étaient, disons, plus traditionnelles.
Quand tu dis la capitale, c'est une grande ville?
Disons que... il y a 20 000 habitants. Disons qu'à Tchouk, il y a 50 000 habitants. dont il y a 50 000 et il y a 20 000 qui habitent à la capitale. Mmh. C'est pas très grand, mais disons qu'on fait tout le tour des îles en voiture dans une demi-heure. Mmh, mmh.
C'est assez petit. Y a des voitures, donc.
Il y a plein de voitures. Ah. Mmh. Il y a beaucoup de voitures, ouais. Mmh. Non, alors disons que la vie à la capitale, est, bon, c'est, disons, il y a plein de voitures partout, il y a plein de commerces, il y a aussi tout, disons que tous les écoles, tous les endroits officiels du gouvernement, je sais pas, toutes les banques, disons qu'il y a tout est là concentré. Mmh.
Mais étrangement, dans l'exposition qu'on peut découvrir au musée d'ethnographie à Genève, les images, les photos que tu montres pour situer Tchouk et la vie, c'est quand même, c'est la barrière de cocotiers, de corail, c'est les cocotiers, c'est la pirogue avec un balancier. Toutes ces images, justement, qui font partie de cette image traditionnelle que l'on a de cette île, et c'est justement pas ce que tu nous décris.
Ouais,
alors pourquoi ce choix-là ?
Mais bon, en tout cas, c'est pas moi qui ai choisi les photos. Ça, c'est d'abord, ouais. Mais non, mais bon, c'est vrai aussi que des endroits comme ça existent. C'est-à-dire, il y a quand même un côté paradisiaque, justement. Mais il y a aussi un côté qui n'est pas du tout paradisiaque. Par exemple, le petit quartier où j'habitais, c'était... disons que là, ils partagent toujours la terre entre la famille. Puis c'était des gens qui venaient des îles assez loin. Puis bon... Disons qu'il y a tout le temps des gens qui se déplacent, qui veulent vivre à la capitale. Alors c'était un bout de terre assez petit. Donc il y avait beaucoup de gens, des familles, des cousins, des oncles et tout, qui venaient habiter là. Puis c'était une petite maison à côté de l'autre, mais vraiment très serrée. Puis dans chaque maison, il y avait une moyenne de 15 personnes. Puis il y avait des cochons partout, des chiens. Disons que ça, c'est pas du tout paradisiaque. Puis bon, les maisons sont faites en tôle. Des choses comme ça.
Donc, ça déjà rien que là, par exemple, il y a changement de leur tradition. Ouais, nous, dans l'imagerie qu'on a, c'est les maisons en palme, etc. Donc là, non.
Oui, ça, on trouve très peu. Mais un peu partout, dans tous les îles. Mais bon, surtout à la capitale, disons que la plupart des maisons, sont faites avec la tôle, avec de bois, mais vraiment très fines. Ouais, c'est comme si c'était pas des vraies maisons, quoi.
Mais la tôle, quand on vit à des températures, j'imagine, entre 35 et 40 degrés, ça infernal. Doit être très sympathique.
C'est infernal. Ouais, mais la chose, c'est que, bon, entre autres choses, ça ne demande pas de travail constant, parce que les maisons faites avec des palmes, bon, ça demande une surveillance, entretenir les toits, des choses comme ça.
C'est quand même le progrès, alors, la tôle.
Oui, d'une certaine façon, ouais.
Et puis, alors c'est petit à petit, en te déplaçant, que tu vas découvrir le choc, l'important changement de la vie traditionnelle. À quoi tu te souviens, par exemple, d'un ou deux exemples de cette découverte pour toi ?
Bon, là, par exemple, quand... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'images qui sont très familiales. Alors, disons que tout d'un coup, on voit une chose et puis tu dis, ah, ça c'est déjà connu. Puis tout d'un coup, on fait aussi une interprétation de ce qu'on voit. Alors, c'est seulement, surtout dans un contexte où il y a le progrès, que disons, c'est un peu partout pareil. Alors, on voit des images très, qui sont pour nous déjà connues dans
comme
un
quoi,
contexte.
Par exemple,
je ne sais pas, la façon dont les gens s'habillent, disons qu'ils sont des habits assez particuliers, mais ce n'est pas du tout les habits qu'on pense, nous, qui peuvent avoir les femmes des mers du Sud.
Voilà, nous, l'image, c'est le pagne jusqu'à la taille et puis le collier de fleurs autour du cou,
voilà.
Avec les seins nus. Donc, pour ce qui est des femmes, les hommes, la même chose, la tête ceinte d'une couronne de fleurs aussi ou de décoration.
Ouais.
Voilà l'imagerie. Alors,
voilà,
rien à voir avec
la
réalité.
Rien à voir avec ça. Normalement, les femmes sont habillées avec des habits, avec un décolleté carré assez fermé, et normalement avec deux jupes, et disant que tout leur corps est bien caché. Alors, bon, disant que même si nous, on n'utilise pas des habits comme ça, il y a quand même un certain côté familial, c'est quand même une robe, comme on peut voir chez nous. Puis voilà, alors bon, qui sont aussi de jupes. On peut penser aussi, ici, il y a 50 ans, aussi, comme les femmes étaient préoccupées, justement, de ne pas montrer. Même maintenant, il y a aussi des femmes qui sont préoccupées de ne pas montrer certaines parties du corps et tout ça. Alors, disons que c'est des images assez familiales et puis que tout d'un coup, on interprète d'une certaine façon. Alors, la chose, c'est que quand on vit dans un endroit un peu plus traditionnel et puis on commence à comprendre un peu plus la culture... On voit aussi le différent sens de ces habits, justement. C'est disant que nous, on voit que ces habits répondent à un certain besoin, mais répondent à des besoins absolument différents. Ça, c'est un exemple. Mm-hmm. Bon, surtout, moi, j'étais surtout préoccupée par le corps. Peut-être que parler des habits, c'est pas très sérieux. Mais pour moi, c'était une partie de ma recherche, justement.
Tout à fait. Et puis, les gens vivent de quoi à l'île de Tchouk si les Américains y sont, mm-hmm. est-ce qu'ils ont un intérêt bien spécifique qui leur mm-hmm. fait donner des avantages d'être là et qu'en retirent les habitants de l'île eux-mêmes?
Mm-hmm. Bon, ça, c'est une question que j'ai toujours eu la peine à répondre, parce que c'est un peu un mystère. Disons que là, traditionnellement, c'était une économie de survie. Disons qu'il n'y avait pas un moyen de stocker des choses. Alors voilà, on allait tous les jours pêcher pour aller prendre des poissons. Et puis on prenait les fruits des arbres, on faisait la récolte. Et puis chaque jour, on cherchait à manger, disons, un peu
plus. Et la terre donnait à manger. Les gens ouais. N'ont jamais souffert de la faim dans ces îles-là.
Non, Non, je crois que ce qu'ils sont toujours, il y a c'est... Bon, on m'a qu'il y a eu des typhons, des choses comme ça. Mais alors, disons qu'avant, c'était comme ça. Et puis, mais maintenant, ce n'est pas exactement comme ça, parce qu'il y a quand même de l'argent, disons qu'ils sont déjà rentrés dans une économie de marché. Mais bon, en même temps, c'est un endroit qui n'a pas beaucoup de richesses, d'où ils pourraient, disons, sortir de l'argent. Alors, bon, pour moi, c'est un mystère. Moi, je crois que c'est surtout une économie énormément dépendante des États-Unis, et puis qu'ils vivent surtout de l'argent que les États-Unis donnent.
Donne,
ouais.
Ou en s'installant parce qu'ils ont des bases militaires, etc. Et que d'une certaine façon, ils amènent de l'argent de cette façon-là.
Bon, c'est tellement compliqué. Disons que ça a été un protectorat, appelé comme ça, mais ça a été une colonie américaine jusqu'à 1986. Puis après, ils leur ont donné l'indépendance avec la condition de que ça soit une démocratie et tout ça. Puis alors, ils ont créé, disons, cette espèce de gouvernement démocratique et avec une économie dépendante des États-Unis. Disons que bon, puis aussi les questions, disons touchant la défense ou des choses comme ça, c'était toujours dans les mains des États-Unis, aux mains des États-Unis. Et bon, à part ça, disons qu'ils sont, ils ont une espèce de programme comme quoi ils allaient donner une telle quantité d'argent chaque année pour qu'ils puissent développer toute une infrastructure dans le pays. Et à niveau bureaucratique, et puis aussi bon, de santé, éducation et tout ça. Alors, ils ont donné, c'était en principe un programme qui allait, disons, donner une quantité de l'argent, qui allait développer l'infrastructure, et puis petit à petit, ils allaient aussi rapetisser l'argent qu'ils allaient donner. Mais bon, ils n'ont rien développé, tout l'argent est parti, personne ne sait très bien où, et parce qu'il y a énormément de corruption. Et alors, voilà, ils se trouvent maintenant dans le moment où ils doivent encore demander de l'argent aux États-Unis. Et puis bon, les États-Unis aussi, ils ont des intérêts militaires, même s'ils sont en toute petite base, presque civile. Mais bon, disons que c'est un endroit qu'ils peuvent toujours utiliser en cas de nécessité. Puis je pense que ça, c'est l'intérêt surtout des États-Unis. Mmh.
Je lisais dans l'exposition que, par exemple, le taux de mortalité infantile est très élevé. Donc, la situation, comme tu dis, de survie concerne tous les habitants.
Ouais. Là, par exemple, une des choses qui a changé avec la colonisation, c'est justement l'alimentation. Disons qu'avant, ils mangeaient peut-être pas beaucoup. Bon, mais ils mangeaient quand même de poissons, ils mangeaient de fruits et puis de taro, disons que les produits de là-bas. Alors maintenant, le problème, c'est qu'ils mangent surtout du riz blanc de la Californie, et puis de la viande en boîte, des choses comme ça, et puis beaucoup de choses en boîte. Alors disons qu'ils mangent très peu de choses fraîches, et puis voilà, ils ont des problèmes de vitamines incroyables, dont surtout les enfants sont affectés. Mais bon, c'est un peu assez général, disons qu'il y a pas mal de maladies qui sont devenues presque endémiques, et puis c'est justement à cause de la mauvaise alimentation.
Et comme hélas, dans beaucoup d'endroits où les Américains passent et transforment le mode de vie de cette façon-là, mmh. l'alcool est-il aussi un poison qui a beaucoup transformé la société?
Ouais, voilà. Ça, c'est un vrai problème. En principe, apparemment, ça, c'était une des... Moi, j'ai la peine à le croire, mais c'est ça qu'ils disent. C'est une des peu sociétés où il n'y avait pas aucune drogue. C'est-à-dire, il n'y avait pas ni de l'alcool, ni aucune autre drogue. Par exemple, on va dans des autres endroits, Micronésie, puis on trouve des boissons. Mais ce n'est pas alcoolique, mais c'est un peu narcotique. Ou, par exemple, la noix de bétel, ou des choses comme ça. Mais apparemment, à Tchouk, ils ne prenaient rien. Alors, tout d'un coup, ils se trouvent... avec cette espèce de monstre que ça a été l'alcool pour eux, dont ils ne savent pas du tout comment le maîtriser. Et puis non, ça a été un très très grand problème à Tchouk. En fait, les femmes, disons que le problème s'arrivait à un tel point que les femmes elles sont justement destinées à faire quelque chose. Puis il y a eu un mouvement assez important dans les années 80 justement pour imposer la loi sèche justement. Parce que disons que ça en avait marre justement de tous les problèmes. Parce que c'est que les hommes qui boivent. Et puis voilà, disons qu'ils ont fait tout un mouvement assez intéressant.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femmes 93.8, et donc nous parlons de la Micronésie et de la place des femmes avec Béatrice Morale.